Ceci n'est pas un commencement. Ceci est une fin. La route dans la vallée du Panjir est superbe. On l'appelle la route de la lumière. Il faut beaucoup de force pour arriver au bout. Elle devient étroite. Elle se perd, disparaît au sens propre, puis réapparaît. Elle a été construite pour Massoud. Un terrain plat, un peu d'eau, des pierres. Quand je suis passé ici il y a 5 ans, j'étais épuisé. La première bombe est tombée à 500 mètres de nous. La deuxième à 300 mètres. La dernière juste à côté de nous. Mes oreilles se sont immédiatement remplies de sang. Autour de moi, des hommes en charpie, du sang, de la terre. J'ai cherché des yeux le Moudjahidine que je suivais. Son ventre était plein de cartouches de la bombe à dispersion.
La montagne magique de Anka Adamian relate l'histoire incroyable de Adam Jacek Winkler, un Polonais réfugié à Paris dans les années 60 et sa vie aventureuse dans les années 80. Se rêvant chevalier du XXe siècle, Jacek quitte la France pour combattre les soviétiques aux côtés du commandant Massoud en Afghanistan. Ce film est le second opus d'une trilogie consacrée à l'héroïsme que la réalisatrice avait entamée avec le voyage de Monsieur Krulik en 2011. À chaque fois, il est question d'un individu faisant face à sa propre mort en voulant donner un sens à son existence et à la vie. Techniquement, la montagne magique associe visuellement éléments réels et plusieurs techniques de dessin afin de créer une surréalité. Les éléments réels sont en partie constitués des archives personnelles d'Adam Jacek Winkler, des photos où il apparaît et d'autres qu'il a prises en Afghanistan. Au final, ce long métrage est d'une beauté esthétique impressionnante et donne une puissance essentielle à l'histoire. Rencontre avec Anka Adamian qui présentait la montagne magique dans la catégorie Vision de l'Est lors de la 16e édition du Arras Film Festival.
Comment vous avez pris connaissance de l'histoire d'Adam Jacek Winkler, qui est polonais et qui se retrouve aux côtés des Moudjahidines et du commandant Massoud?
Quand je faisais Krulik, j'avais rencontré beaucoup de gens qui me disaient « Mais pourquoi tu donnes attention à cet homme qui était en prison, qui était suspecté d'être un voleur ?» Krulik en France, c'était le voyage de M. Krulik. Je me suis aperçue que j'étais attirée plutôt par l'héroïsme, et ce que je comprends par héroïsme, c'est à quel point ta vie n'a plus d'importance par rapport à quelque chose, par rapport à sa vérité. Krulik, sa vie n'était plus importante s'il ne pouvait pas vivre avec sa vérité. Et alors j'ai envisagé une sorte de trilogie qui comprend les trois niveaux, inconsciente, consciente et métaphysique, spirituel. Et pour le deuxième niveau, conscient, j'ai cherché une sorte de Don Quichotte qui va à la guerre avec le dragon pour un personnage romantique mais fou, comme tous les personnages, et qui, bien sûr, sa quête, même s'il y a entre cynisme, aventure, poésie et burlesque, tout ça se mélange, c'est pas vraiment de l'héroïsme que nous comprenons, il n'existe pas. Et la lutte apporte d'habitude des morts, c'est pas n'importe pas des victoires, ce sont seulement des morts qu'on compte à la fin. Et moi, j'étais tellement attirée par sa vie que j'ai commencé une recherche avec eux, premièrement, puis j'étais aussi en Afghanistan 2 semaines pour commencer à faire le film.
Alors justement, vous avez été en Afghanistan, donc vous avez rencontré des gens qui ont combattu aux côtés de Jacek et en même temps du commandant Massoud.
Oui, quand j'ai organisé mon voyage en Afghanistan, tout le monde m'a dit « mais tu dois être folle, tu peux te renseigner des livres sur Afghanistan, tu risques des choses pour rien ». Et je vous dis à la fin que si je n'étais pas en Afghanistan, ça m'avait apporté l'impression que j'ai eue là-bas, était tellement fort et différent après une année et demie de recherche visuelle et informative sur l'Afghanistan, ça ne peut pas être comparé avec rien. L'impression était si forte et si mélangée. Il y a liberté et mort en même temps, danger et liberté, ça, tout ça se mêle. J'ai senti une chaleur humaine et j'ai rencontré des gens très délicats entre les rapports avec les autres. Et j'ai vu aussi un paysage, j'étais aussi dans les montagnes Panjshir où les combats ont eu place. Et j'ai vu aussi les places, j'étais dans la cave où il avait dormi. Et j'ai rencontré des moujahidines qui l'ont connu. Des gens très chaleureux. Et vraiment, j'ai eu une impression très forte. Et j'étais contente que je n'ai pas écouté les opinions des autres avant.
Avant de partir pour l'Afghanistan, j'ai tout vendu. Je n'ai plus rien désormais. Juste cette histoire. Adam Jacek Winkler, le dernier chevalier du XXe siècle. Où ? Comment j'ai vécu la fin du monde ? Parce que je peux dire que je l'ai bien vécu. Et même plusieurs fois. Le film devrait débuter avec la montagne. C'est une question d'adrénaline. C'est un peu l'aventure aussi. Rappelle-toi la première règle de survie. Ne pas mourir, si possible.
Ne pas mourir.
Je me dis que je me suis trompé d'époque. Peut-être aurais-je été plus à l'aise dans l'armure d'un chevalier. Mon armure à moi, ce furent les cordes, les piolets, les couteaux, les pitons, les coinceurs, les poulies, le harnais.
Tu peux venir, moi aussi.
Nous n'avons plus le temps. Quand on grimpe, il y a toujours deux possibilités. Revenir en arrière ou avancer. Ça passe ou ça casse.
On est au début du film, papa. Aéro, ça marche jamais.
Comment avez-vous travaillé en studio et rassemblé l'équipe du film ? Je crois savoir qu'en Roumanie, le cinéma d'animation est quasi inexistant. Comment vous avez procédé ?
Oui, ça c'est un... Krulik, Le Voyage de Monsieur Krulik était le premier film d'animation après 20 ans. Alors, La Montagne Magique est le deuxième film d'animation après... Oui, mais moi, quand je parle d'animation en Roumanie, c'était une période, une longue... Après Ion Popescu, Gopo, je ne sais pas si vous vous souvenez, des années 50. C'était un artiste complexe et génial, mais après lui, il y avait des artistes qui ont commencé à faire d'animation, mais soit on finit par faire de la pub, et soit on quittait le pays. C'était une grande période quand on ne pouvait pas parler de l'animation roumaine. Et même un festival Animes qui a commencé à s'organiser il y a 10 années et qui a commencé pour des jeunes. Et l'intérêt pour l'animation a commencé à grandir. Alors j'ai eu la possibilité de faire le film d'une manière personnelle parce qu'il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de gens qui sont carrés dans le pipeline de l'animation. Et tu ne vas pas dans un studio qui te dit « Ah, ça ne se fait pas comme ça, tu dois faire comme nous ». Et j'ai eu le lead animator, l'animateur chef était le seul qui savait plus et des jeunes qui vraiment étaient au début de leur travail. J'ai organisé dans deux studios le travail et aussi dans un studio en Pologne pour la même raison, parce que en Pologne il y a des traditions, j'ai demandé qu'ils organisent avec, dans la même manière qu'en Roumanie. C'était Tomek Dutz, qui est un animateur connu comme, comme chef animateur, et lui il a travaillé avec des étudiants de l'Académie de Cracovie. Alors les trois studios ont travaillé dans la même manière, et j'étais très contente qu'après travailler pour mes films, les studios continuent à travailler ensemble, car ils ont été organisés pour mon film, et finalement ils se sont très bien entendus et ont commencé à partager aussi le prochain travail.
Alors votre film, qui est très proche du documentaire, il est à la fois informatif, instructif et éducatif. J'imagine que dans les livres d'histoire, c'est pas forcément inscrit, et votre film est un vrai documentaire sur ce qui s'est passé, et on comprend mieux cette histoire qui nous paraît très lointaine pour nous, Européens, mais en même temps, est-ce qu'en Afghanistan, justement, il a été vu, et comment il a été perçu ?
Après, j'étais en Afghanistan. C'était, les choses se sont changées. Maintenant, plus de risques, car là-bas, le film, bien sûr, que j'ai donné aux personnes que j'ai rencontrées, et comme là-bas les droits d'auteur sont loin d'être respectés, je m'imagine que le film circule sans problème.
Alors, tout au long du film, quand on regarde, on s'aperçoit qu'il y a aussi des ambiances avec des références qui, moi, me font penser aussi à certains films muets, films de noir et blanc.
Oui, j'ai plein de références. Comme cette histoire se passe dans une salle virtuelle de cinéma, j'ai utilisé 16 références, des films muets que j'aimais beaucoup, mais aussi de Vajda, du film polonais, aussi de l'animateur Jan Lenica, l'animateur polonais, du Coppola aussi, bien sûr Méliès, Renoir, la petite méchante de Saint-Remette. Il y a même des images sur lesquelles on a peint au-dessus, des images de ces films, où il y a de la mise en scène répétée pour faire une accroche à de la mise en scène du Coppola, par exemple du cas Apocalypse Now. C'est un moment vrai que j'ai inséré comme citation dans le film. Il y a plein de références, et ça donne un peu, parce que le film parle d'une demi de siècle d'histoire, effectivement.
Ah oui,
et tout ça vient, rajoute, accroche à l'histoire du XXe siècle. Ça tient un peu de mon style postmoderne par rapport à traiter le visuel.
Alors, pas mal de dessins aussi dans votre film, donc puisent leur inspiration dans les dessins d'Art Naïf, de Adam Jacek Winkler. Pouvez-vous expliquer comment vous les avez choisis ?
Pour les styles visuels, oui. Moi, je trouve que la dramaturgie apporte tout avec le sujet. Cette fois-ci, on discutait d'un film qui s'approchait un peu du roman Don Quichotte de Cervantes, et qui mêle des différentes, qui est éclectique, qui mêle, comme je vous ai déjà dit, poésie, aventure, burlesque, cynisme, et tout ça. Et alors, comme le sujet était comme ça, j'ai utilisé aussi plein de styles qui viennent chaque avec l'émotion du séquence que je faisais. Bien sûr, il y avait déjà des références dans le scénario, puis j'ai travaillé aussi pour décider les styles. D'une grande importance était la présence de Théodore Ouchev. On a travaillé ensemble pour lister les styles, et il est venu aussi avec ses idées. Il a fait le storyboard, on a discuté le storyboard, il l'avait fait. Il était au cœur du développement du projet. Et puis, le travail étant partagé au studio d'animation, j'ai essayer de prendre aussi un peu de la créativité des gens du studio, mais seulement s'ils venaient dans la direction que je voulais.
Bah, l'animation est signée Yann Lenica, la direction artistique, vous venez de le citer, confiée à Théodore Houchef. Bah, c'est en même temps l'un des plus réputés cinéastes d'animation de nos jours. Il y a plusieurs techniques utilisées dans votre film, le dessin, le papier, le mélange carton, le dessin sur vitre. Comment vous avez réalisé, parce que c'est un gros travail quand même pour choisir quelle scène va être animée en telle technique, comment vous avez fait au montage pour tout synchroniser tout simplement ?
Quand j'envisage un film, j'envisage comme un saucisson, si me le permettez là. Beaucoup en avant, c'est pas le tournage qui est décisif comme en fiction. Tout est déjà conçu et au niveau, pour moi, j'ai eu cette demande, mais c'est si compliqué d'avoir des choix. Non, pour moi, c'est simple d'avoir des choix parce que je suis ce que je veux dire. Et alors, le choix vient, pour moi, c'est le seul choix dans cette vision de saucisson, les styles, pour avoir des accroches, pour qu'il existe dans la diversité une unité quand même, qu'on ne fait pas une salade et c'est tout. Et qu'il y a des scènes qui se rapportent entre le début et la fin. Et, c'est peut-être que de l'extérieur, il semble difficile. Pour moi, les idées des styles viennent aussi pendant la recherche. Aussi, il y a des moments réels qui me donnent des idées, quels matériaux d'utiliser, parce qu'on est à l'intérieur de l'histoire et toutes les choses te disent quelque chose, et alors les idées viennent aussi, et l'animation est géniale par rapport au matériau.
Ça laisse une liberté.
C'est le milieu où je sens vraiment la liberté et l'inventivité doit être tenue un peu parce qu'on peut faire n'importe quoi. Ça.
Mon histoire finit là où elle a commencé. À la montagne. J'avais des comptes à régler avec ma jeunesse quand j'ai quitté la Pologne en cachette. Je voulais lutter, refaire le monde. C'était la première fois de ma vie que je ressemblais à ce dont j'avais toujours rêvé d'être. Un chevalier. J'avais peur de mourir, non. Mourir au combat, ça vaut le coup.
Il y a aussi évidemment le travail de doublure vocale. Qui est interprété par Christophe Miossec, qu'on connaît très bien, et Lizzie Brocher, hein, qui fait la fille, donc Anya Winkler. Comment vous avez arrêté votre choix sur ces voix, et notamment pour celle de Christophe Miossec, sachant que c'est pas quelqu'un de très facile à convaincre, et il est très timide.
Oui, c'est ça, la timidité. Mais nous étions déjà... pour trouver la voix de Adam Jacek, c'était vraiment la voix française. Moi, je considère que la version française est la version principale du film. C'est la version qui circule aussi à l'international dans les festivals. Alors, on a essayé à trouver le meilleur choix. Et comme on a fait déjà des essais qui n'ont pas été parfaits, on est arrivé à Christophe Miossec, qui n'est pas acteur.
C'est la première fois d'ailleurs. Hein.
Mais comme il comprend très bien la liberté du personnage, il vit au bord de l'océan, il a un sort d'individualisme dans sa vie, il a pu comprendre le personnage. Je lui ai dit, vous ne devez pas jouer, vous devez être. pour justement, il devait comprendre l'émotion qui ne va pas avec le texte. Parfois, le texte dramatique, on doit le dire avec humour, parfois ou avec distance. Et tout ça, en donnant à chaque moment quelle est la direction de l'intention au-dessus du texte, il a pu dépasser son émotion, parce que l'émotion était le piège réel pour travailler, parce qu'il était si ému, même sa ombre lui donnait peur pour faire une chose. Mais quand il a eu la pensée derrière ce qu'il devait dire, il a dépassé sa émotion, il a pu entrer dans le personnage.
Si on parle un peu de mise en scène également, et ce qui apparaît à l'écran, presque avant la fin du film, moi il y a une scène que j'aime énormément. J'y ai trouvé une sorte d'allégorie animée qu'on voit à deux reprises avec un oiseau. Est-ce que c'est une référence au phénix qui renaît de ses cendres ?
Non, c'est l'oiseau afghan qui a les âmes des morts. Ça tient de la mythologie afghane.
Vous savez aussi que dans la prose afghane, le personnage se transforme, c'est aussi, ça tient du style du film. Quand j'ai vu, dans le personnage commence comme Blanche-Neige, mais devient complètement Alice de Wonderland. Dans les histoires afghanes, c'est comme ça, ils ont un plaisir de raconter. Ils n'aiment pas que tu demandes, mais quelle est la fin? C'est non, le plaisir de raconter. Et aussi, dans l'histoire, le personnage se change vraiment entièrement et devient un autre. L'oiseau Simur, c'est l'oiseau qui vient de la mythologie afghane et qui est fait des âmes de mort et qui a aussi cette... comme j'ai dessiné, elle se forme, elle se transforme dans 30 oiseaux qui deviennent un oiseau. Ça se fait une transformation continue et ça tient aussi de la liaison avec le monde des morts et le monde des vivants.
Ok, donc moi je pensais que c'était le phénix, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, ce qu'a fait ce fameux Adam Jacek restera dans l'histoire. Donc je pensais que le phénix renaît de ses cendres, ça veut dire qu'il vivra éternellement au travers d'un discours. J'aimerais aussi également que vous commentiez la citation de la fin du film. Comment vivre tout en sachant qu'on va mourir? Comment apprivoiser le mystère de la mort? La mort parfois nous exalte et nous provoque à aimer la vie. Je trouve que c'est une très belle citation qui résume très très bien le film. Est-ce que vous pourriez me dire quelques mots là-dessus?
Je crois que les gens qui envisagent leur mort, c'est pas qu'ils sont macabres, c'est parce qu'ils pensent donner valeur à leur vie. La vie n'aurait pas de valeur si la mort n'existerait pas. Et pour ça, en même temps, c'est donner un sens à notre vie. Moi, je trouve une des choses qu'on doit vraiment avoir envisagé pendant vivre, donner un sens même pour nous-mêmes. J'ai reçu hier une question qui m'a vraiment fait rire. Il m'a dit, mais votre personnage donne des leçons de survivre. Et la première leçon de survivre, c'était de rester chez lui. Et j'ai dit, pour moi, survivre, ça ne signifie pas être mort vivant, fermer les fenêtres et rester chez toi et ne faire rien, c'est être un mort vivant. Pour vivre vraiment, ça signifie aussi du danger, ça signifie aussi s'exposer, faire des choses que tu crois importantes, faire des choses pour lesquelles tu as peur même, mais dépasser la peur pour faire des choses que tu crois importantes pour les autres, pour toi, pour ce monde.
Oui, vous faites référence évidemment à une personne qui vous a certainement interpellé lors du festival d'Amiens et qui évidemment qui a été fermée, étant donné les événements qui s'est passé à Paris, donc le vendredi 13. Quelques mots là-dessus, parce que vous avez certainement dû vivre ces événements en même temps que nous.
C'est étrange, je vous dis, c'est une coïncidence. Je voyage en France, mais je ne pouvais pas dire que je suis tant de temps, mais j'étais aussi, pendant l'attaque de Charlie Hebdo, je faisais l'enregistrement avec Christophe Miossec. Il venait de la gare pendant l'annonce de l'attaque. Et le 13, je suis venue en France. Alors, la coïncidence a fait que j'étais vraiment ici pour les deux attaques. Pour moi, vraiment, je crois qu'il n'existe aucune raison dans ce monde pour tuer une personne. Je crois qu'il n'existe aucune raison dans le monde pour avoir une guerre. Je crois que tout ça ne peut pas venir d'aucune religion, parce que dans le cœur de toutes les religions, c'est l'amour. C'est ça le cœur de toutes les religions. Je crois qu'on n'a pas assez d'amour. Cette humanité a besoin de se renouveler par rapport au cœur. J'espère que ça va se passer. Si ça ne va pas se passer, ça n'apportera pas de bonnes choses. La seule solution est de renouveler l'humanité à l'intérieur de chacun. Chacun doit vraiment réfléchir et nourrir l'amour dans le pur sens du mot.
C'était un entretien avec Anka Damian autour du film d'animation La Montagne Magique, un long métrage proposé dans la catégorie Vision de l'Est lors de la 16e édition du Arras Film Festival. Le film est sur les écrans français depuis le 23 décembre 2015.